Mes chers amis, bonjour. Ici David et bienvenue à la saison 2 de Quelle Histoire. J'espère que vous avez la pêche. Ça me fait grave, mais vraiment grave plaisir de vous retrouver une fois de plus. Dans les nouvelles, une autre tuerie aux USA. C'est un peu la routine là-bas. Fusillade dans une école primaire au Texas. Bilan, 19 enfants et 2 enseignantes ont péri sous les balles d'un jeune de 18 ans à peine. Je tiens aussi à souligner le décès de Ray Liotta pour ceux qui connaissent, vedette du film mythique sur la mafia, Les Affranchis, ou en anglais Goodfellas. Pour moi et plusieurs, considéré comme un classique. Avant toute chose, la famille, lâchez-vous, laissez-vous aller. Si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, faites-le maintenant. C'est sans douleur et ne laisse aucune séquelle. Vous allez être trop stylé, abonné à Quelle Histoire. Activez aussi la cloche pour rester connecté. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui, je me pose avec un doyen, un ancien, un vétéran du rap francophone au Canada. Très fluide dans le maniement de la langue de Molière, son talent ne se limite pas seulement au micro, parce qu'il est également producteur, réalisateur, arrangeur et formateur. Dans sa famille, le don de la musique passe de génération en génération. Tel un sprinter, témoin en main, il a 3 enfants dans le starting block qui sont prêts à prendre leur relais. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir qui est Gino Auré, aussi connu sous le nom de disciple d'EK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut Gino, comment vas-tu?
Ça va extrêmement bien, toi?
Bah, très bien, très bien. La vie est belle. La vie reprend, comme on dit. Donc, ça va?
Tranquillement, pas vite, exact, exact.
Ouais. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, Gino, toi, tu fais partie de ces rares personnes qui décident à un jeune âge de développer leur passion. Raconte-nous un peu comment tout a commencé.
C'était pas, comment je pourrais dire, quelque chose d'extrêmement calculé.
D'accord.
Je pourrais dire tout simplement que je suis né dedans. Je viens d'une famille extrêmement musicale. Mm-hmm. Juste pour te peindre le portrait, mon grand-père était pasteur.
D'accord. Okay.
Donc, je viens d'une famille chrétienne qu'à tous les samedis, il y avait des répétitions pour la chorale.
D'accord.
Et pour leur groupe de compas, de zouk chrétien. Mm-hmm. Un groupe qui s'appelait Inspiration. Donc moi, tous les samedis, je me retrouve, on va chez mon oncle Carlo. Tous les instruments sont là. Tout le monde chante, danse, performe. Il y a du piano, il y a des drums. Et moi, je baigne dans cette atmosphère. Okay?
D'accord.
Tout le temps.
Et là, c'est où? Et là, c'est ça, où? C'est au Canada ou en Haïti?
Oui,
ou
oui,
ailleurs?
Moi, je suis né ici. Moi, je suis né à Montréal.
D'accord.
Donc, et la plupart de ma famille est à Montréal.
D'accord.
Donc, je me retrouve chez mon oncle à Montréal. La musique se fait. Et je peux me rappeler que je devais être j'avais 5 ans ou 6 ans.
D'accord.
Pendant une des pratiques, le groupe prend une pause. Il laisse les micros là. Mmh. Moi, je marche, je vois le micro, je le prends et je m'essaie à chanter ce que j'ai entendu sur le micro.
D'accord.
Et tout le monde se rend compte que, ah, mais il a un talent, etc. Mmh. Et ça a été ma première touche active à la musique. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mais mmh. dans mes premiers balbutiements, là, il y a eu une évolution et ça a grandi dans mon cœur, en tant que talent. Mmh. Et maintenant, ça fait partie de mon âme, quoi.
D'accord. Et toi, tu fais partie de la culture hip-hop. Donc, à part le rap, que fais-tu d'autre dans cette culture hip-hop?
Bien, déjà, c'est quelque chose qui surprend souvent les gens. J'ai pas commencé comme un gars de hip-hop. Moi, à la
D'accord.
base, j'ai commencé dans le R&B, justement influencé par ma famille qui faisait de la musique, qui faisait du chant. Moi, comment je pourrais dire, mes sources, c'est vraiment dans le R&B. Mais arrivé au secondaire, il y a comme une switch. Il y a un interrupteur qui a été enclenché. Et là, j'ai vraiment été plus approché, touché par le hip-hop. Et c'est
D'accord.
là que ça a grandi. Maintenant, pour tous les trucs que je fais dans le hip-hop, je suis un songwriter, je suis un beatmaker, je suis un réalisateur. J'anime souvent des spectacles aussi. Je danse, plus spécifiquement
D'accord.
une danse qui s'appelle le crump.
D'accord.
Mais dans le fond, le seul truc auquel je ne participe pas dans les cinq éléments du hip-hop, c'est le visuel. Je fais pas de graph, je fais pas de graffiti, je fais pas de dessin.
D'accord.
Je peux à peine faire des bonhommes allumettes. Ça, c'est le maximum de mon talent là-dessus.
D'accord.
Mais tout le reste, j'y touche.
D'accord. Et j'ai lu quelque part que tu es formateur. Peux-tu élaborer sur ce que c'est d'être formateur?
J'ai l'honneur et le privilège de travailler surtout avec des jeunes
D'accord.
dans différents centres, dans les écoles, dans des prisons pour jeunes où j'enseigne l'écriture, plus
D'accord.
spécifiquement le rap, la poésie, le slam. Dans le fond, je cherche à donner de l'aide aux gens qui ont la difficulté à s'exprimer.
D'accord.
Donc ça, c'est là que je me place. Et c'est aussi en lien avec le surnom, le pseudonyme que je me suis choisi, qui est disciple d'Eka. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend, qui absorbe de l'information, la digère, en fait l'osmose, et après ça, la redirige et la donne à d'autres. Question de multiplier les disciples. Donc moi, ma curiosité, mon amour de connaissances, de talents, moi, c'est là ma force. Très tôt, j'ai compris ça. Donc, moi, j'adore former, j'adore aider, diriger, guider pour que je puisse former la prochaine génération, quand on parle de hip-hop,
D'accord.
et créer des gens qui sont encore plus puissants, encore plus forts que moi.
D'accord.
En commençant avec mes enfants, autour de mes enfants.
D'accord. Donc, disciple, j'ai compris. Pourquoi Deka? Deka, ça veut dire.
Déca, ben, Déca, ça retourne à mes racines en tant que croyant. Quand on parle du 10, on parle du chiffre de la perfection. Quand on va dans la Bible, 10 ramène aussi aux 10 commandements. Donc, encore une fois, ça revient à la Bible. Puis le chiffre 10 a été comme partout dans ma vie. J'étais dans une lignée de personnes. J'étais la 10e personne à me faire baptiser. C'est vraiment le chiffre est toujours revenu. Donc, je savais déjà que Déca, ça allait être dans mon nom, Deka qui bien sûr est 10 en grec.
Exactement, ah, d'accord. Ok. Entre production musicale, rap ou rappeur, et
Ouais.
formateur, quel médium te procure le plus de liberté et satisfaction?
Je vais dire je vais précisément l'écriture.
L'écriture.
L'écriture, c'est mon premier amour.
D'accord.
Écrire, moi jouer avec les mots, les placer, trouver des métaphores. La création pour moi c'est numéro un.
D'accord.
La production c'est quelque chose qui est venu, je pourrais dire ça a été une conséquence. C'est vraiment il y a une causalité de ce côté-là. Je voulais écrire et faire du rap. Dans mon groupe au secondaire, personne faisait des beats. Mais j'étais le seul à l'école qui avait, dans mon groupe d'amis, qui avait un ordinateur. Fait que tout le monde s'est tourné vers moi et m'a dit, ben écoute mon Gino, peut-être que toi tu pourrais commencer à faire des beats. Puis moi j'ai fait, ben ok. Alors j'ai juste fouillé. Rappelle-toi, je t'ai dit que moi ce que j'aime, c'est aller chercher des informations. Donc on s'est mis sur l'internet, on a fouillé, fouillé. J'ai testé un paquet de programmes. j'ai trouvé celui qui m'allait le mieux et j'ai commencé à créer et à produire des beats. J'aime produire, j'aime réaliser des albums. Très récemment, j'ai réalisé l'album d'un très bon ami à moi qui s'appelle Emmanuel Hippolyte, alias Poet Black. Mais maintenant, j'ai une équipe à qui je peux donner le flambeau. Et maintenant, je me permets de le faire quand ça me tente. Parce que j'aime me concentrer sur l'écriture.
Et ça fait combien de temps que tu fais des beats? C'était dans la production.
Presque aussi longtemps que j'écris. J'ai commencé au secondaire. J'ai vraiment commencé ma carrière de rap en 98.
D'accord.
Et j'ai commencé à produire en même temps.
Comment décris-tu la scène musicale québécoise contemporaine actuellement? Comment décris-tu cette scène musicale?
Donne-moi deux instants que je puisse bien rire. Où commencer dans ce merveilleux monde qu'est la scène de rap québécoise? Et je la trouve... insulaire, isolée, trop souvent, je la trouve limitée et limitante.
D'accord.
Et tout ça a l'air négatif, isolé, ce qu'on le prend à la surface. Mm-hmm. Le bon côté des choses pour moi, c'est que ça prouve que tout ça peut évoluer très rapidement. Je lis la scène de rap québécoise au même problème de discrimination qu'il y a au Québec, point final.
D'accord.
C'est un reflet de la société elle-même. Donc, certaines injustices qu'on a dans la scène, bien, c'est ce qu'on a dans la vie de tous les jours, dans d'autres domaines. Ce qui me donne la joie, par contre, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui se prépare. Je vois des jeunes en ce moment qui sont extrêmement talentueux, actifs, qui créent des choses. Écoute, je connais des jeunes en ce moment à 18 ans qui font des miracles comparé à ce que moi, j'étais capable de faire avec les moyens de l'âge, bien sûr. Moi, j'ai commencé à faire du rap.
D'accord.
Donc, pour moi, sky is the limit. On ne peut qu'avoir du meilleur. Pour moi, on a atteint le bas-fond. Maintenant, on peut se donner une poussée puis aller dans les airs. L'autre truc que je veux mentionner, je suis extrêmement fier des racines du rap québécois.
D'accord.
Parce que je dois être capable de donner des shout-outs, un big-up à des gens comme Mozaïen, des gens comme Sans Pression, Ils vont crever... Dogmatic. Il y a plein de groupes que je peux mentionner qui étaient vraiment là initialement, qui ont commencé le rap dans l'underground, puis qu'à travers certains trucs, ont peut-être pas eu toutes les fleurs et les applaudissements, les accolades qui devraient venir avec. Mais sans eux, j'aurais probablement pas commencé à rapper spécifiquement en français.
D'accord.
Parce que ça n'avait pas l'air de quelque chose qui se ferait ou qui faisait du sens, à moins que tu étais en France.
Effectivement.
Alors, c'est ce que je veux dire à propos du rap québécois.
Comment est-ce que la montée des réseaux sociaux a affecté ta manière de travailler?
Le jour et la nuit.
D'accord.
Le jour et la nuit. Faut comprendre, les réseaux sociaux, c'est un outil.
D'accord.
Donc, ça ne garantit pas le succès, mais ça permet, ça l'a permis, un petit peu moins maintenant, mais ça l'a permis pendant un très long moment de bifurquer, bypasser je me permets l'anglicisme, les gatekeepers, les gens qui peut-être nous empêchaient dans les médias plus orthodoxes, conventionnels, c'est ça le mot que je cherchais, conventionnels. T'sais, il était très difficile pour nous, admettons, d'accéder à la radio grand public, d'accéder à la télé, d'avoir des vidéoclips, d'avoir. C'est toutes des choses que on ne pensait pas être capable de distribuer notre mot sans avoir à passer à travers un label, un manager, etc. Maintenant, avec les réseaux sociaux et l'Internet en général, on a la possibilité d'aller chercher directement un fanbase, aller créer une communauté de personnes qui nous ressemblent et qui aiment notre art.
D'accord.
Maintenant, j'étais capable d'être proche, ami avec des gens qui habitent très loin de moi. Simplement à cause des réseaux sociaux, j'ai fait des contacts incroyables à cause des réseaux sociaux. Si je peux me permettre de name drop quelqu'un.
Bien sûr.
Il y a une légende dans le gospel français, Pierrot Battery.
D'accord.
J'ai eu l'occasion de faire un morceau avec lui. Et le point d'entrée a été un challenge qu'il avait fait sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il avait mis un beat, puis il a dit, écoute, voici l'instrumental. J'aimerais quelqu'un comme mettre un verse là-dessus, ce film, et nous l'envoie. Ça va servir de remix à ma chanson. Et puis c'est un autre ami à moi qui m'a fait signe et puis qui m'a dit hey, je pense que toi tu serais parfait pour ça. Je dis, ah ouais, tu penses? Ok, cool, boum, je le fais. Tout le monde aime le morceau. Puis Pierrot me contacte, il me dit, écoute, je te veux sur une autre chanson, est-ce que t'es disponible, est-ce que tu veux? Maintenant, en temps normal, il aurait fallu que je trouve un moyen d'aller en France ou que je vienne ici. Mais j'étais capable de faire ma chanson à la maison, dans ma propre chambre, dans mon propre home studio.
L'enregistrer,
mixer et l'envoyer. Exactement. Et voilà, c'était mon premier morceau à Outre-mer. So, there you go. Pour moi, c'est je répète, c'est jour et la nuit. Et ça m'a permis surtout d'expérimenter. Il y a des trucs qu'on n'est peut-être pas prête à faire en live avec des gens. Je me suis lancé un peu dans l'humour. Tout simplement en créant des vidéos et du contenu en ligne. Mais peut-être que je ne me serais pas permis de le faire s'il fallait que mon premier coup soit
sur scène,
sur scène devant une salle comble. À l'aise pour le rap, mais peut-être pas pour l'humour.
D'accord. Donc,
ça, c'est ce que je vois.
On ne peut pas parler de cette pandémie qui a fermé les frontières, justement, comme tu disais. Tu as réussi à faire des morceaux de ta chambre pour des artistes outre-mer. Donc, on ne peut pas... si on parle de tout ça, on pense à cette pandémie qui a fermé les frontières physiques et imposé la distanciation sociale. Comment l'as-tu vécu et quel impact ça a eu sur ton mental?
La pandémie. Ok, je vais l'expliquer comme suit. Je suis de nature ermite.
D'accord.
Homebody. J'aime être à la maison. Je suis un nerd, un geek. J'aime justement être dans des livres, sur l'internet, faire des recherches. Donc pour moi, la pandémie c'était merveilleux au début. Parce que ça me permettait de concentrer. Une blague que je dis souvent aux gens, quand j'étais à l'intérieur de la première année de pandémie, je demandais pardon à tout le monde que je croisais, parce que je leur disais, écoute, au nouvel an qui précédait, j'ai toujours une prière que je fais à Dieu. Je dis, cette année-là, en 2019, j'étais comme, Dieu, j'ai tellement de projets et de trucs que j'ai besoin de compléter, mais je ne trouve pas le temps. Si tu pourrais permettre faire en sorte que je sois capable de m'organiser et d'avoir le temps de faire tous mes plans et mes projets, je serais incroyablement béni. Et puis, boum, tout est fermé.
Donc, en gros, la pandémie, c'est ta faute.
C'est ma faute. C'est complètement... c'est moi qui ai mis la poisse. Je suis gouré. C'est ma faute. Blame me. Point final, right? Alors, c'est pour ça que pour moi, initialement, it was wonderful.
Okay.
Là, j'ai sorti single, album, j'ai créé contenu après contenu après contenu, j'ai organisé mes trucs, parti ma compagnie et mon brand. Moi, je roulais. Et les gens me connaissent, je suis une machine. Quand je commence à travailler, j'ai les 10 projets, puis c'est comme, OK, go, on crée, on crée, on crée, on crée. Right? Il y a deux trucs qui m'ont. Que le COVID, ou je devrais même dire trois, qui m'ont vraiment mis des bâtons dans les roues. La première chose, c'est que en janvier 2020, pour être exact, le 10 janvier 2020, je sors le single Pizza Hawaiian, qui jusqu'à maintenant est mon morceau le plus populaire de toute ma discographie.
D'accord. Okay?
Le track est un hit, c'est viral, le vidéo est viral, ça s'en va partout. Et j'ai des échos partout, j'ai des offres, des deals qui s'en viennent, très intéressants, lucrative. Et je suis en train d'aller à travers des contrats et tout, et je suis sur le point de signer quelque chose qui, pour de vrai, changerait ma vie. Et justement, avec des contacts de France qui m'ont découvert à travers Pizza Hawaiian sur Facebook. Et ils me disent, écoute, voici ce qu'on veut t'offrir, très intéressant, regarde le contrat et envoie-nous le contrat. Non, je sais ce qu'ils ont fait. Ils m'ont envoyé un premier comme sommaire du contrat. Puis ils m'ont dit, ça, c'est pas le propre. On va t'envoyer le vrai contrat lundi. Alors, lundi, attends-nous. Okay? Mm-hmm. Ça, c'est le mois de mars. Mm-hmm. Okay? Le week-end arrive et la France est shut down à cause de la pandémie. OK?
D'accord.
Tous les plans
sont
à l'eau. Pas sur glace, à l'eau.
D'accord.
Parce qu'il y a des compagnies qui ferment, il y a des gens qui sont morts. Je blague même pas avec toi. Mm-hmm. Et là, c'est comme pour ceux qui filent de mes doigts. Alors là, ça, c'est le premier point négatif. Et je suis comme, OK, mais on est au mois de mars. Il y a plein d'autres trucs qui peuvent arriver. Mm-hmm. Tout de suite après, on embarque sur la mort de George Floyd.
D'accord.
Et là, il y a le mouvement Black Lives Matter, brutalité mm-hmm. policière, plein d'autres trucs qui arrivent. Moi et, et un de mes fils, Elijah King. Donc, ça s'appelle Criminel. Chanson qui parle de brutalité policière, filmée pendant une des manifestations au mois de juin. Okay. À Montréal, downtown, pour justement contre la brutalité policière. Je me fais blackball, bannir de presque tous les médias après que mon vidéo sort. Et justement, parce qu'il n'y avait rien de... Il n'y a rien que j'ai dit ou que j'ai fait dans la vidéo qui était violent ou... Non. C'est juste que la simple vue de Black Lives Matter ou de ce sujet-là, YouTube m'empêche de faire des promotions... Facebook bloque mon compte pendant un certain temps, même chose pour Instagram. C'était vraiment terrible. Et là, comme tout ce qui avait super bien commencé comme momentum, tranquillement, pas vite, ça commence à s'écraser. Puis là, je commence à me dire, mais c'est quoi qui se passe? Les gens sont devenus fous. Et là, je suis comme blackballed pendant juste quelques mois, OK? Uh-huh. Je me reprends seulement au mois de septembre.
D'accord.
Où est-ce que... le gouvernement décide, oui, on doit retourner les enfants à l'école. Et dans mon cœur, j'ai un feeling, je dis, si ils envoient les enfants à l'école, on va tous revenir malades. Et oui, première semaine,
d'accord.
Les enfants sont allés à l'école.
Okay.
Ils sont revenus, j'ai pris la COVID, puis j'ai failli crever.
Ah ouais, carrément.
ouais. Petit séjour à l'hôpital. Déjà, je suis un gars qui est asthmatique. C'était vraiment pas, puis c'était le lendemain de ma fête, je pense, là, comme la semaine après ma fête. Donc, on prend toute cette boule d'événements-là et d'émotions. Si je dois faire la moyenne, je pense que je m'en suis sorti très bien. Parce que je respire encore et je suis toujours vivant.
D'accord.
Je vois pas le négatif, je vois juste le positif, que je continue de vivre, mais je te mentirais pas que c'était lourd. Et c'est pas juste la maladie, c'est vraiment tout ce qui entoure la maladie. C'est les changements des gens autour de moi aussi. Parce que ce que moi, je vis très bien, ça s'applique pas avec, je te donne par exemple, mes enfants. Mm-hmm. Moi, je suis quelqu'un qui veut rester à la maison, pas mes enfants. Mes enfants sont des sportifs.
Effectivement.
Et les trois ont vu leur saison sportive être coupée de 2 ans. Mm-hmm. Mes enfants ont beaucoup d'amis. Mes enfants font de la musique avec moi, donc on a l'habitude d'avoir un paquet de spectacles ensemble. Ça a été tout un challenge. L'échange, les enfants, mon ex, les déplacements. Il y a tellement de trucs qu'on a de la difficulté à penser, hein, jusqu'à ce qu'on arrive dans la situation. Il n'y avait aucune possibilité de prévoir ce qui allait arriver.
C'est clair.
Mais ça a pris du travail pour s'en sortir. Donc, mon cœur va à ceux qui l'ont vécu plus difficilement que moi.
Je pense que c'est juste un petit détour. Je pense que je peux te souhaiter que les choses reprennent et que ça soit multiplié par 10, quoi. Parce que je pense que tu peux pas passer à côté de. D'après ce que tu me dis, c'était quelque chose, c'était des opportunités extraordinaires. Et de là, de passer à côté comme ça, je crois que c'est juste un détour. C'est, en fait, c'est tout ce que je te souhaite, quoi.
je le reçois. Ouais. Merci.
Ouais. Et sur quoi travailles-tu en ce moment?
Je travaille, comme je l'ai déjà dit, sur tellement de trucs.
Ouais, sur toi personnellement, sur toi ou tes enfants, tes projets perso, albums, vidéos, projets, qu'est-ce qui se passe?
Écoute, en ce moment, je suis dans ma campagne de conquête du rap québécois.
D'accord.
Je me permets de le dire humblement.
D'accord.
c'est ma campagne en ce moment. C'est ce que j'essaie de faire, d'accomplir. Je te dirais que c'est mon année de... Quand j'ai recommencé le rap, je dis recommencer parce qu'il y a un moment dans ma vie où est-ce que je me suis mis dans le background à faire juste de la production parce que je passais tellement de temps difficile. Je passais une séparation très difficile. Et je trouvais que l'industrie, justement... Je voulais pas d'opportunité vraiment pour continuer.
D'accord.
Un très bon ami à moi, Jean Ducœur, c'est lui qui m'a remis le turbo, le NOS, le gaz.
Le pied à l'étrier.
Exact. Il m'a dit, écoute, j'ai besoin que tu te remettes au travail, frère. Puis j'ai dit, OK. Et quand je suis revenu, j'ai dit, je vais me donner 5 ans pour pas seulement me remettre sur pied, mais pour revenir en top. Donc, cette année, c'est la dernière année que je t'ai donnée dans le 5 ans, dans mon plan de 5 ans, okay? Avec certains buts.
D'accord.
Cette année, je sors un album au mois de septembre.
D'accord.
Les premiers singles ont déjà commencé à sortir. Le dernier single qui est sorti, c'est la chanson avec mon fils, mon plus jeune fils, Jamal Jacob, qui s'appelle Blackout. Le vidéo et la chanson sont sortis au mois de mars. J'en ai un prochain qui s'en vient le mois prochain, j'en ai un autre le mois d'après. Il y a des chansons, il y a du matériel qui s'en vient. Donc il y a ça. Je travaille sur l'album collaboratif entre moi et mes 3 enfants.
D'accord.
Il y a des chansons qui s'en viennent avec ça. À travers tout ça, je suis en spectacle tout l'été. Depuis la semaine prochaine, j'ai commencé officiellement ma tournée. Je suis en spectacle 2 à 3 fois par semaine. Surtout avec un band avec qui je collabore depuis longtemps qui s'appelle le Urban Science Brass Band. Je fais partie de ça. Et ces gars-là me gardent occupé quand on parle de travail. Et j'en profite pour le mentionner. Ils m'ont gardé occupé pendant tout le COVID aussi.
D'accord.
Parce que, étant un brass band, on avait l'occasion de faire des parades. Donc, on n'était pas limité à des micros et un stage et des salles. Nous, on était dans le centre-ville en train de marcher avec le band. Les rappeurs, nous, on rappait dans des mégaphones, des porte-voix. Et on servait d'entertainment aux gens qui, eux, nous regardaient de leur balcon parce que peut-être avaient peur de sortir ou ne pouvaient pas aller dehors. Mais il y avait quelque chose qui se passait dans les rues. Question de propager la bonne humeur.
D'accord.
Donc, moi, j'ai travaillé tout le long. J'ai pas chômé de ce côté-là. Donc, spectacle, album, chanson, beaucoup de collaborations. Et juste du contenu en général. je m'arrête jamais de créer, que ce soit sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat ou en live. Et pour terminer, je donne une série d'ateliers d'écriture, des ateliers hostiles que j'appelle, pour les jeunes qui même me suivent. Tout ça, tout simplement en ayant comme but de créer des machines de rap, des bêtes de scène.
C'est super. Maintenant, nous allons passer à la question, ok? Une question par rapport à un moment marquant de ta vie. Alors, je te demande,
Oui.
où étais-tu quand tu as appris la naissance de ta fille?
Ah, quand j'ai appris la naissance de ma fille.
La naissance. Pas que sa mère est enceinte, la naissance de ta fille.
J'étais. Il y a tellement de trucs à dire là-dessus. Je vais y aller comme je suis, OK?
D'accord.
Ma fille est née le 25 décembre.
D'accord. Est-ce que
Le
c'est ta
25.
fille aînée? C'est ta fille aînée?
C'est, oui, c'est la plus vieille.
C'est la plus vieille, d'accord.
Donc, elle est née le 25 décembre.
En
Elle a
quelle
maintenant
année?
18 ans, donc en 2003.
D'accord.
Elle est. Son nom, c'est Rebecca.
D'accord.
Et ce moment-là est particulier pour moi. On est à l'hiver.
OK.
Cette naissance-là arrive à la suite de plusieurs situations. Premièrement, j'ai eu cette année-là, l'année précédente, un accident d'auto, perte totale de mon auto, perte de mon permis, à travers des séries de problématiques. J'avais des excès de vitesse. C'était l'année. Est-ce que c'est l'année que j'ai eu mon permis? J'essaie de penser. Peut-être 2 ans avant. Ouais, peut-être 2 ans avant. Je venais d'avoir mon permis. Donc j'avais un permis apprenti.
D'accord.
J'ai eu l'accident. Perte de points. Je
Wow,
perds mon emploi
d'accord.
dans le même moment. Mon groupe initial de rap. Avec qui on faisait des mouvements puis qu'on bougeait pour un record deal. Tout ça tombe à l'eau, le groupe est anéanti. Et à travers tout ça, ma copine m'apprend qu'elle est enceinte.
Wow.
Donc on comprend que Noël, on se préparait à aller dans ma famille pour Noël. Tout d'un coup, les contractions sont là puis elle est comme non, c'est là que ça va se passer. Je pense que c'est mon cousin qui nous amène à l'hôpital. Le bébé est né et je dois aller chercher des trucs manquants à la maison. Je me retrouve dans un arrêt de bus, un abri bus, à attendre l'autobus. Et ça, c'est à la fois le meilleur moment pour moi parce que, je répète, ma première, mon enfant, là, c'est le jour où je suis officiellement devenu un père. C'est le plus grand moment pour moi, mais le moment le plus down et horrible parce que je sens que je suis à mon plus faible.
Un
Pour
peu
moi, le fait où.
paradoxal, quoi.
Oui, exactement, parce que je suis là, puis je suis père et je me retrouve. Je suis quelqu'un de très fier. Hein. Je suis quelqu'un qui a toujours réussi, entre guillemets, dans la vie. De mes amis, c'est moi qui a commencé sa carrière en premier. Je travaille en informatique de jour. Un emploi qui me paye extrêmement bien pour mon âge. Je roulais dans une auto de l'année. J'ai du succès dans la musique, comme tout va pour moi là. Et là, je me retrouve dans un arrêt de bus, tempête de neige, à pleurer, à attendre l'autobus pour retourner chez moi prendre des trucs, en me disant j'ai un enfant puis je sais même pas comment je vais la nourrir, genre.
Wow,
Mais
d'accord.
ça c'était comme ça c'était j'ai senti que c'était Dieu qui me donnait une jambette spirituelle.
D'accord.
Il m'a dit, hé, Padnet, mon gars, si tu penses que c'est toi qui es en contrôle,
Ouais.
laisse-moi te remettre
Dans le
en
droit chemin.
place. Yeah! Fait qu'il y a un moment d'humilité qui se prend et c'était vraiment un switch pour moi dans ma vie à partir de ce moment-là. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un des moments les plus mémorables, importants, touchants. Puis c'est à la fondation de tout ce que je fais maintenant.
Donc tu peux dire que c'est un moment qui a vraiment changé toute ta vie, quoi, la naissance.
Complètement, complètement.
D'accord. Et là, par la suite, on a eu deux autres. Ils ont quel âge?
Mon fils Elijah King, qui lui a 16 ans, ou je devrais dire qu'il va avoir 16 ans dans quelques mois, et j'ai mon plus jeune, Jamal Jacob, qui lui a 13 ans.
Quelle est la manière dont tu interagis avec ta fille par rapport à la manière dont tu le fais avec tes...
C'est une question. Encore une fois, c'est une question qui est à la fois complexe et extrêmement simple.
D'accord.
Si je traite ma fille et mes fils différemment, ce n'est pas à cause de leur genre ou leur sexe, c'est simplement en tant qu'individus, ils sont différents.
D'accord.
Moi, j'ai été élevé par trois femmes. Okay? Mon père s'est divorcé de ma mère. Même où je devrais dire à l'inverse. Ma mère a divorcé mon père, j'avais 4 ans.
D'accord.
Okay? Il a été dans ma vie in and out pour un certain nombre d'années. Donc, j'ai été vraiment élevé comme ma figure paternelle, ça a été mon grand-père qui était pasteur, comme je l'ai dit. Mais le plus souvent, c'était ma mère et mes deux tantes, donc les sœurs de ma mère. Right?
D'accord.
Donc, j'ai une certaine sensibilité à ce qui a trait à traiter les femmes en général.
D'accord.
Il y a déjà ça. Il y a dans certaines familles, okay, où je devrais dire, okay, je devrais dire, dans les gens qui sont plus conservateurs, vont avoir une manière de décider de traiter les jeunes filles d'une manière, les jeunes garçons d'une manière. Exemple, tu sais, les filles, comment ils s'habillent, c'est important, de quoi ils ont l'air, c'est important, où est-ce qu'ils vont, c'est important, des choses comme ça. Moi, c'est simple. Tous mes enfants, s'il y a quelque chose qui me dérange, c'est la même chose qui me dérange pour tout le monde.
D'accord.
Right? Si je dis à ma fille, je ne te veux pas dehors à telle heure, si c'est bon pour elle, c'est bon pour mes fils. Je suis fair de ce côté-là. Quand j'ai dit à ma fille que je ne voulais pas qu'elle ait des réseaux sociaux jusqu'à avant tel âge, c'est aussi ce que j'ai appliqué pour mes fils. Right? De retour à la question. Je traite ma fille d'une manière parce que ma fille, en tant qu'individu, elle a des besoins et une manière de communiquer qui est très différente des deux autres. Mais mon fils, Elijah, il est extrêmement différent dans
D'accord.
la manière qu'il faut l'approcher. Puis, même chose avec Jamal. Jamal, je suis plus proche de lui parce qu'on a des affinités plus grandes quand on parle de passion, etc. C'est celui qui me ressemble plus de ce côté-là.
D'accord.
Mon fils Elijah a plus d'affinités et de ressemblances avec sa mère, malgré que lui, c'est une copie conforme de moi, mais en plus pâle.
D'accord.
Okay? Et ma fille, c'est vraiment elle fait la mi-temps entre moi et sa maman.
D'accord.
Donc, c'est vraiment une combinaison. Donc, pour juste récapituler, c'est ça. J'ai pas une manière différente. Ça m'a pas. Je ne me suis pas dit, ah zut, j'ai une fille. Souvent, on entend, toi, c'est quelque chose. Souvent, on entend des gars, ah oh, man, j'espère que je n'aurai pas une fille en premier, parce que c'est tellement difficile, les filles, puis blablabla. Moi, j'étais content d'avoir une fille. Moi et mon ex, on pensait avoir un gars. On avait déjà décidé du nom du gars, Elijah. Mais quand on a su que c'était une fille, on était comme, ah zut, le seul truc qui nous a dérangé, c'est parce qu'on n'avait pas de nom. Puis là, quand on a commencé à trouver des noms, c'était ça le glitch. Mais dès qu'on a trouvé son nom, et on a été d'accord d'un coup comme ça. It was easy. Mon fils est arrivé là déjà, cool. Puis quand tu arrives au troisième, on pensait avoir une fille. Et j'étais très content d'avoir une fille aussi.
D'accord.
Certains gars, ils vont me dire, ben non, avoue, là, tu as une fille déjà. Je suis sûr que tu es content d'avoir deux gars après. Content. Je vais te dire la vérité. Si ce n'était pas pour ma fille, j'aurais pas eu d'autres. Si ce n'était pas à cause de ma fille, j'aurais pas eu d'autres enfants. Parce que ma fille était tellement facile à dealer avec. J'ai eu un deuxième bébé, puis c'était plus difficile, puis j'ai fait, ah, peut-être que c'est lui. Je pensais que l'anomalie, c'était lui. Donc, OK, le troisième, on va être correct, puis le troisième, c'était exponentiel. Je disais, ah, non, OK, c'était elle qui était différente. C'est juste ça. Alors, mais non, pour moi, je vois pas de différence. It's all good.
Quel est ton film préféré de tous les temps et pourquoi?
J'ai jamais de réponse rapide. Désolé.
Il n'y a pas de souci, on est là pour discuter, c'est exactement, y a aucun souci.
Voyons voir. Bon, je. Ok, on va aller comme ça. Pendant un long moment, mon film préféré, c'était La Matrice.
D'accord.
Okay. La Matrice a été détrônée par Inception. Okay.
D'accord.
Inception, ça l'a changé ma vie, ce film-là. J'ai dit, waouh,
Ah ouais,
côté action, effets spéciaux. Ouais.
juste pour te dire, moi je suis sorti de ce film, on est resté pendant 1 heure dehors en train de discuter et personne n'était d'accord de la fin, de ce qui s'est réellement passé. Et c'est le genre de film où, que j'aime bien comme ça, comme Twelve Monkeys, des films où tu sors de là, chacun a son avis, chacun a sa vision, chacun a vu les choses à sa manière, et on essaie de se mettre d'accord, de se comprendre. Je suis d'accord avec toi pour
T'as
tout ça.
vu, c'est exactement le point justement. Quand je regarde, quand on regarde la matrice et comment je pourrais dire les images qui me sont envoyées, les messages qui sont envoyés à travers ça, le sous-entendu, les métaphores. Tu sais, je vois tout pour moi est comme une chanson rap. Moi, je décortique tout sujet comme je décortiquerais une chanson rap. Fait que moi, je vois le thème, je vois les métaphores, je vois. Et c'est pour ça que j'ai adoré. Fait que quand j'ai vu Inception, pour moi, comme je me demandais si c'était pas les mêmes créateurs, puis on m'a dit non, 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 ça c'est Nolan. Puis j'ai fait, ah, ok, cool. Puis quand j'ai fouillé pour Nolan, j'ai su que le Nolan, c'est le même gars qui avait fait Memento, si je me rappelle bien.
Je
C'est un
pense
très
à
bon
toi.
film aussi. De quoi?
Je pense, je suis pas sûr.
C'est ça, il me semble que c'est lui qui l'a fait aussi. Donc, je regardais Inception, puis je me rappelle, moi je ne l'avais pas vu au cinéma. J'avais manqué au cinéma, puis je me rappelle, je l'ai vu à. Je l'ai loué. Je l'ai loué, je l'ai écouté, et quand c'est fini, parce que je l'ai écouté tout seul en plus, je l'ai écouté, et je suis resté là un bon 30 minutes tout seul à faire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je viens d'écouter? J'espérais, je suis allé sur Internet, j'espérais que c'était basé sur le livre que j'aurais pu lire. Non. Un dessin animé, non. Je m'étais dit, il doit avoir une suite. Il doit avoir une suite ou un prequel. Il doit avoir quelque chose qui presse rien. Et j'étais comme, waouh. Je suis resté frustré, mais en même temps, ce film-là, c'était comme, ok, c'est resté dans ma tête. Alors, c'est resté un bon moment comme ça, à pas être détrôné. Finalement, la trilogie de Nolan, de Batman, c'est ce qui m'a
D'accord.
déplacé. Plus précisément, le Dark Knight, qui est le deuxième film de la
Ah
trilogie.
ouais, le deuxième,
Ah,
c'est un
écoute
chef-d'œuvre.
là.
Je pense que le troisième aurait pu être aussi bien ou même
Oui.
mieux, mais je pense qu'après la mort de gars qui avait fait de Joker, ils ont tout
Ouais.
changé. Et ça a donné un bon Batman, mais pas aussi, enfin, à mon avis, pas aussi bon que
Ouais.
la suite aurait pu être aussi bien ou beaucoup mieux, mais après, bah,
C'est
évidemment, c'est pas
ça.
de leur faute, mais enfin, bref, vas-y.
Non, c'est une très bonne trilogie.
Ouais.
Comme tu as dit, le troisième n'était pas à la hauteur du deuxième.
Mais c'est pas de leur faute. Ouais.
C'est pas leur faute. Et le troisième est quand même meilleur que le premier, dans ce que je crois. Fait que
D'accord.
pour moi, là, c'était rendu, OK, Dark Knight, c'est mon top. Et je t'ai dit, rien va bouger dans Dark Knight. Et c'est pendant la pandémie que Dark Knight a été que Dark Knight, excuse-moi, a été de sa position de top film,
Détrôné. Ouais.
détrôné par Tenet.
Tenet avec
Tenet
le fils de David machin là.
de Denzel Washington, ouais.
Ouais, d'accord.
Qui...
Il est si bien que ça, j'ai hésité, hein. Tu me
Écoute,
donnes envie de le regarder là.
il vaut la peine de regarder. Moi, ça aussi, c'est un film de Nolan. Et
D'accord.
c'est après avoir vu ce film-là que j'ai réalisé que je crois que je suis un fan de Nolan. Je pense que j'ai trouvé mon niche, j'ai trouvé ma préférence, prépondérance. Voilà, je suis un fan de Nolan. Tenet a pris sa place, je l'ai dit, ok. Est-ce que Tenet et meilleur côté, que ce soit technique ou comme si on doit comparer comme papier sur papier là, avec Inception, c'est le pacing est un peu moins bon dans Tenet, je trouve. Mais encore une fois, Nolan fait des moves côté technologie qui sont incroyables. C'est pour ça que je t'expliquais le, je ramène tout à la matrice. La matrice a amené le bullet time là, effect qui a révolutionné le cinéma là. Ils ont créé un système pour ça, et tous les autres films après ont essayé de les suivre. Même chose dans les effets qu'il y a eu dans Inception. Tenet aussi, je trouve que côté technologie, visuel, dépassé. L'histoire, parce que Nolan aime ça, faire des histoires où est-ce qu'on bouge dans le temps. Et j'ai été très impressionné qu'il a été capable de reprendre un concept qui pourtant on devrait être écœuré maintenant de parler de voyager dans le temps. Les films de voyage dans le temps, il y en a plein. Il y en a plein. Mais les règles sont constamment changées pour les bienfaits, justement, du script. Et j'ai trouvé que l'angle que Nolan a pris avec Tenet était tellement particulier. Et si j'en dis plus, je te spoil le film, en guillemets, OK?
D'accord.
Ça vaut la peine. Tu vas le voir, OK? Mais il y a des semblances, des choses qui sont mentionnées qui se rapprochaient beaucoup de mon style d'écriture, de mes influences, même la manière que je crée des métaphores à l'endroit, à l'envers, la manière que je vais disséquer des mots. Quand tu vas voir le film, tu vas voir que même le nom du film, quand il apparaît dans le film, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Le nom lui-même joue avec le temps.
Donc, ah, d'accord.
Va le voir, mais long story short, comme on dit en anglais, ça, c'est le top pour moi en ce moment. Tenet, c'est mon film.
Tenet, d'accord. Et ta chanson préférée de tous les temps? Et pourquoi? La chanson, celle-là, c'est la chanson. Je sais qu'on a plusieurs chansons, mais y en a une là que tu, pour toi, c'est, voilà quoi, it scotch, elle te scotche quoi, celle-là.
Ouais. Ok, celle-là, je vais voyager dans le temps aussi, dans cette chanson-là. Et au lieu de te le dire à l'envers, je vais te le dire à l'endroit.
D'accord.
Donc, ma chanson actuelle, c'est la chanson Over, O-V-E-R. D'un chanteur, d'un artiste qui s'appelle Lucky Day.
Okay. Lucky Day.
Lucky Day.
D'accord.
D-A-Y.
D'accord.
Wow. Écoute, côté l'écriture de la chanson, le thème, je te l'ai dit plus tôt, je suis un grand fan de R&B. C'est ma source, c'est ce que j'aime le plus. Même quand je fais du rap, même quand je réalise un album, pour moi ou pour d'autres, je me fie les thèmes, les crescendo, je vois toujours ça comme un album de R&B, je vois ça comme une chanson R&B. Donc, cette chanson-là, je l'adore. Elle est sortie, c'est une chanson qui est de cette année, là, même. Là. Passée. Ça doit faire, ouais, c'est fin 2021.
Ok, il est d'où cet artiste?
Des États-Unis.
D'accord.
Des États-Unis. Puis, l'artiste lui-même, je ne le connaissais pas beaucoup. Il y avait deux, trois chansons que j'avais entendues lui, mais que j'aimais beaucoup, encore une fois. J'ai un type côté R&B. J'ai un vibe. j'ai un vibe que quand je me fais une playlist, je ne suis pas capable de donner un autre nom que vibe. Moi et ma fille, on a un peu les mêmes goûts. Puis, habituellement, quand je lui envoie de la musique, c'est juste comme... Ce qu'elle va me répondre, c'est « Yo, I love this song. It's a vibe. It's a vibe. » C'est ça qu'elle me dit tout le temps. Donc, cette chanson-là, très importante pour moi. Puis, voici le lien avec mon passé. L'échantillon de cette chanson-là qui est utilisée est et d'une chanson qui s'appelle Half Crazy de Music Soul Child.
Ah, ok, d'accord.
Ok. Et cette chanson-là était ma chanson préférée il y a de ça 10 ans avant. Une de mes chansons préférées comme que j'adore. Ça aussi, c'était quelque chose qui était une chanson qui est arrivée à un moment particulier dans ma vie. C'est une chanson de break-up, de rupture. Puis je me reconnaissais dans cette chanson. Je me reconnaissais dans cette chanson-là, incroyablement. Fait que pour moi, encore une fois, c'était comme un... c'est venu full circle pour moi. Mm-hmm. D'arriver, puis d'avoir une chanson. Puis la chanson s'appelle « Over », c'est fini. Mm-hmm. Mais il a tellement bien incorporé la vie de l'ancienne chanson que je te parlais, de Music Soul Child, tout en faisant quelque chose qui est très moderne dans la production. Ah, juste, écoute, écriture, production, l'artiste lui-même. Et en plus, il a fait une version a cappella qui était incroyable. Et de cette manière-là, il a prouvé que lui-même, c'est pas un flou. C'est pas un accident. Le gars est fort. Il est fort techniquement. C'est un vrai artiste, c'est un vrai chanteur. J'ai encore de voir quelle autre chanson qui va la détrôner de mon palmarès personnel.
D'accord.
La barre est haute, la barre est haute. Every time we link up, it's only us there. We're thinking, will we get there? Is it wrong? Is it right? You know that I miss you. I be getting mixed signals. Why you slow down? Don't stop. It's green light. Now you calling me special when you know I can't have you. When I'm on to the next one. Oh, now you want to get aggressive. Oh, what do you mean? Keep on making believe. Nightmares turn into a dream. If you're so toxic to me, what am I feeling?
Ben, j'ai choisi un entretien, je pense qu'il va te coller à la peau, qu'on appelle l'entretien vinyle ou CD. D'accord.
Okay. D'accord. Ouais.
D'accord. Donc, on y va. T'es plutôt vinyle ou plutôt CD?
CD.
D'accord. Et sur scène, t'es plutôt avec ou sans DJ?
Avec DJ.
D'accord. Là, je monte la barre. Là. T'es plutôt Tupac ou plutôt Biggie?
Biggie.
D'accord. T'es plutôt sample ou samples ou plutôt création originale?
Samples.
D'accord. T'es plutôt rap ou plutôt trap?
Pour moi, ça revient au même.
Ça revient au même?
Ouais. Écoute, on va le mettre comme ça. Si ta question, c'est est-ce que je suis plutôt boom bap que trap? Alors, ma réponse est boom bap.
D'accord. Bon, on va revenir un peu en arrière. Pourquoi Biggie? Et pourquoi Biggie?
Biggie, pour moi, représente les ce que j'aime le plus du rap.
D'accord.
J'aime le rap technique. J'aime son style de métaphore. Mm-hmm. J'aime son... En anglais, on dit « demeanor ».
D'accord.
Comment se portait. Okay? Fait que l'impression qu'il dégageait, j'adorais ça.
D'accord.
J'ai pas collé avec Tupac, même si je le respecte hautement. En tant que storyteller, en tant... que poète et en tant que messager et son aspect social, j'adore. Mais puisque la question est une question musicale, musicalement, je suis Biggie all the way.
D'accord.
Même si c'est pas mon rappeur préféré, mais entre les deux, Biggie all day.
Ok. Et c'est qui ton rappeur préféré, juste pour savoir?
Si on va chez les Américains, c'est Busta Rhymes. Si on va vers la France, je vais me diriger vers Saiyan Super Cool.
Ah, d'accord. T'es plutôt rap hardcore ou plutôt rap commercial?
C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile parce que c'est les croisements que j'aime, moi.
D'accord.
J'aime voir des gars à corps être capables de traverser. Parce que quand habituellement on dit commercial, les gens, ce qu'ils veulent dire, c'est ah, il y a de la mélodie, et
Voilà.
puis il semble, peut-être que ça semble plus dilué. Mais encore une fois, mes influences, c'est l'R&B. J'aime ça, avoir de la mélodie dans ma musique.
Effectivement.
J'aime bien les beats hardcore qui frappent, qui même si la basse est monotone, mais ok, ça frappe comme une tonne de briques, puis les lyrics sont là, puis oui, j'adore. Mais j'ai quand même une préférence vers la mélodie. Fait que c'est le croisement, mais s'il faut vraiment choisir, je vais dans commercial. Pour moi, tout ce que je vais faire, de toute façon, faut que je sois capable de le commercialiser parce que je veux que ça aille à un plus grand nombre de personnes.
D'accord. On va aller outre-mer. Donc, t'es plutôt Booba ou plutôt Kaaris?
La seule raison pour laquelle je vais dire Booba, c'est parce que à tous les jours, j'espère que le mec va retourner à ses racines de lunatique.
D'accord.
Puis Kairis, j'ai pas assez écouté Kairis. Même Booba, le Booba actuel, ok, je vais le dire de cette manière-là. Les deux, je les aime pas en ce moment. Je les aime pas en ce moment. Booba est devenu une caricature de 50 Cent, en moins bon. Moins le charisme qui est nécessaire. Kairis, comme j'ai dit, j'ai pas assez écouté de son stock, mais je trouve que Booba avait plus de bars que Kairis. Et comme je te dis, en plus, il y a l'avantage que pour moi, c'est un vétéran que seul le crime paye est quand même dans mes top chansons, dans mon top 10 comme ça de ma tête de rap français, là. Quand on parle de chansons. Fait que pour le bien de la cause, Booba.
T'es plutôt Maître Gims ou plutôt Dadju?
Ah, Gims! Dadju, ma fille peut garder Dadju, mais Gims all the way! Gims, c'est section d'Axo, c'est que d'or.
D'accord.
Que d'or, c'est un des morceaux préférés de mon plus jeune fils, Jamar. Fait que, ouais, mais Gims!
Gims.
Gims!
D'accord. T'es plutôt Apple Music ou plutôt Spotify?
Moi, je suis YouTube Music. Mais... Choisis le troisième choix. Mais encore une fois, entre les deux, okay, j'utilise Apple Music, mais je gagne plus de Spotify.
D'accord.
Donc, je pourrais dire qu'en tant qu'utilisateur, je préfère Apple Music. En tant qu'artiste, je préfère Spotify.
Ok. Alors, on va aller du côté anglo. T'es plutôt Dr. Dre ou plutôt Timbaland?
Timbaland,
Timbaland,
c'est
d'accord.
mon producer préféré, on top.
Ok. pour la dernière. T'es plutôt boisson alcoolisée, enfin, t'es plutôt boisson alcoolisée ou plutôt pétard?
Je fume pas, alors on va aller à l'alcool. Direct, direct.
D'accord. Bah écoute, choisis un chiffre entre 1 et 10.
Dix.
Ah bah voilà. Où te vois-tu dans 10 ans?
On top.
On top?
On top. On top de quoi? Je peux pas dire, mais on top.
En top,
Ouais.
au contrôle, quoi.
Complètement. Si je peux le concrétiser plus,
D'accord.
je vais mettre tout ce que je fais en ce moment, c'est pour mettre mes enfants dans une position où est-ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
D'accord.
S'ils veulent gagner leur vie dans la musique, ils vont être capables de le faire. S'ils veulent gagner dans le sport, ils vont être toujours capables de le faire. Et s'ils veulent le faire dans d'autres passions, ils vont le faire. Mais je veux faire tout dans mon possible pour qu'ils n'aient pas à se poser de questions. Ils vont faire ce qu'ils veulent faire.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Deka ou Gina?
Ah. que je garde le cap. Que je garde le cap. Il y a
pourquoi,
beaucoup de distractions.
Parce que t'as l'impression des fois de perdre le cap?
Non, mais c'est parce que je sais que plus on monte dans l'échelle,
d'accord.
Plus ça joue dur, plus les décisions deviennent difficiles. Une manière de plus concrète de le dire, c'est facile de juger le gouvernement jusqu'à ce que tu travailles pour le gouvernement.
Mm-hmm.
C'est facile de critiquer l'industrie jusqu'à ce que tu travailles dans l'industrie toi-même.
Mm-hmm.
Right? Mm-hmm. Donc la question, c'est de garder l'intégrité, même dans la montée de ces échelons-là. Je sais que à mesure que je monte, ma portée va être plus grande, mais ma responsabilité aussi. Donc, je dois toujours trouver moyen de garder le cap, de me rappeler pourquoi je fais ce que je fais, de garder entre guillemets le 10 dans ma tête et qu'on continue à monter en haut. Alors, s'il y a quelque chose pour moi, priez pour moi, pensez à moi, Gino garde le cap.
Disciple Deka, a.k.a. Gino, j'ai été ravi de t'avoir comme invité et je te dis merci.
C'est moi qui te remercie pour cet entretien. J'espère qu'on va se parler bientôt, plusieurs fois, longuement.
Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Bye.
Bye. Ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Disciple Deka pour ce bon moment passé ensemble. Quelques petits rappels comme d'habitude avant de se quitter. Abonnez-vous, partagez ce podcast et parlez-en au moins à 2 personnes qui vont en parler à 2 autres et ainsi de suite. Un détail super important, lâchez-moi 5 étoiles. Laissez-vous faire, allez-y. Si vous êtes sur Apple Music ou un commentaire, si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. Tout cela, vous le savez, permettra de donner plus de visibilité au podcast. Donc, je compte énormément sur vous. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez surtout pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast@gmail.com. À chacun son histoire, mais quelle histoire! À vous de le découvrir dans le prochain épisode, jeudi prochain. Ciao, ciao!